espions et nous te bénissons parce que tu nous permets de nous retrouver dans cette clairière où déjà dans les années passées tu as fait descendre sur nous les bénédictions d'en haut. Et nous voudrions que nos cœurs s'ouvrent aussi vers le ciel, puisque le ciel s'ouvre sur nous, afin qu'il y ait vraiment communication entre nos âmes et ce trône de grâce qui est comme une ville ouverte où nous pouvons pénétrer en tout temps, en tout lieu, et d'où nous pouvons recevoir le secours au moment opportun. Que ta bénédiction soit sur nous et que tu captives toutes nos pensées pour les amener à l'obéissance du Christ, ton unique, notre Sauveur, la puissance incarnée de Dieu. Amen. Est-ce que je parle assez fort? Alors, comme notre dépliant vous l'indiquait, chaque matin, nous étudierons ensemble cette fameuse épître aux Romains. Je pense que vous avez tous vos Bibles, car ça c'est très important. Si nous vous autorisons à vous dévêtir un peu physiquement, nous vous recommandons de vous revêtir de la parole de Dieu quand vous venez dans cette clairière. Ce matin, nous consacrerons cette heure à une introduction générale à l'épître aux Romains. Dans les journées à venir, après avoir bien réfléchi, nous avons pensé faire quelques changements. Nous en avons du reste fait chaque année, mais à partir de lundi, vous serez divisés en petits groupes de 7 ou 8 et vous aurez une demi-heure dans chaque groupe pour lire à haute et intelligible voix dans un lieu que vous choisirez dans la nature, une portion de cet épître aux Romains. Et vous partagerez entre vous, dans cette demi-heure, ce que vous trouverez. Le groupe sera dirigé par un animateur volontaire, mais il n'y aura pas de questions. Ce sera une lecture contemplative de la parole de Dieu, car nous sommes de plus en plus convaincus que seule cette lecture, faite à haute voix, sans commentaire même, est ce qui peut le plus vous instruire et rester dans votre mémoire. Le Saint-Esprit, dans les jours à venir, vous rappelant les vérités que vous avez lues et que vous avez entendues, car cette lecture à haute voix a ce double effet. On voit et on entend, et cela demeure mieux marqué dans nos cœurs. Quand on écoute avec l'oreille de son cœur, et quand on lit avec les yeux du cœur, nous sommes persuadés que la parole habitera ensuite en nous, et il sera, comme le dit saint Paul aux Colossiens, avec abondance. Et dans la vie quotidienne, le Saint-Esprit vous rappellera une de ces paroles qui sera lumière à vos pieds, une lampe à vos pieds, lumière sur votre sentier. Une parole qui sera une exhortation dans un moment de tentation. une parole qui sera une consolation dans un moment de souffrance, dans une épreuve, quelle qu'elle soit. Une parole qui vous édifiera, qui vous construira, qui vous bâtira intérieurement. Car nous avons besoin d'être bâtis intérieurement. Nous avons besoin que l'homme intérieur en nous grandisse et se fortifie, même si l'homme extérieur peut dépérir. L'homme intérieur doit se renouveler de jour en jour. Mais pour cela, ce renouvellement se fait par l'action de la parole et la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir la place qu'occupe l'Épître aux Romains dans notre Nouveau Testament. Vous savez que le Nouveau Testament contient combien d'épîtres de Paul? 13. Puisqu'on ne peut pas être assuré que l'épître aux Hébreux soit de Paul, donc nous connaissons 13 épîtres signés par cet apôtre. Mais l'ordre dans lequel ces épîtres nous sont donnés dans le Nouveau Testament n'est pas un ordre chronologique. Et je voudrais simplement, ce matin, replacer les épîtres dans l'ordre où elles ont été écrites. On peut trouver donc les épîtres qui ont été écrites avant la première captivité de Paul, entre les années 52 et 57 après Jésus-Christ. Alors la toute première épître qui a été écrite, c'est laquelle? C'est la première épître aux Thessaloniciens. Tout cela, on pourrait l'étudier en prenant le livre des Actes. La première épître qui a été écrite par Paul, c'est l'épître aux Thessaloniciens qui a essentiellement pour sujet la venue du Seigneur. Et ensuite, la deuxième que nous pouvons citer, c'est la deuxième lettre aux Thessaloniciens qui a suivi de très près la première. Et ces deux lettres ont été écrites alors que Paul était à Corinthe. Nous avons cela au chapitre 18 des Actes. Vient ensuite, en troisième position, l'épître aux Galates, qui a été écrite d'Éphèse. Puis, la première épître aux Corinthiens, donc entre les années 52 et 57. Vient ensuite la deuxième épître aux Corinthiens, qui fut écrite de Macédoine, et en sixième position, l'épître aux Romains. Donc, quand vous trouvez immédiatement l'épître aux Romains après les Actes, ne croyez pas que c'est la première épître que Paul a écrite. Cette épître aux Romains a été écrite de Corinthe, donc avant la première captivité de Paul, dans les années 56 à 57. Puis maintenant, vous avez les épîtres qui ont été écrites pendant la première captivité, entre l'an 60 et 63. Et quand je parle de cette première captivité, c'est une captivité qui a eu lieu où? À Césarée ou à Rome? À Rome. Dans les années 60 à 63. Alors, vous avez là l'épître aux Colossiens, ensuite vient l'épître aux Éphésiens, puis l'épître à Philémon, et enfin l'épître aux Philippiens, qui ont eu lieu qui ont été écrites dans la première captivité de Paul, non à Césarée, mais à Rome. Puis vous avez les épîtres qui ont été écrites entre la première et la seconde captivité de Paul à Rome. Il a été relâché un moment, et donc ces épîtres ont été écrites entre les années 64 et 66. C'est la première épître à Timothée, et l'épître à Tite, qui sont donc écrites de Rome, mais où Paul est en liberté. Enfin, pendant la seconde captivité de Paul, quelle est la lettre qu'il a écrite, qui est la dernière? La deuxième épître à Timothée. Alors, comme ça, vous avez juste une idée du temps où Paul a écrit ses épîtres, parce que c'est très important pour nous de savoir dans quelles circonstances l'apôtre a écrit ses épîtres. Alors, si l'épître aux Romains se trouve en tête des épîtres du Nouveau Testament, c'est pour quelle raison? Que l'Église, lorsqu'elle a fixé le canon des Écritures dans ses conciles, a placé l'épître aux Romains en premier. Eh bien, c'est certainement parce que cette lettre est l'exposé le plus magistral et le plus complet des vérités du christianisme. Tout ce qui est nécessaire au salut de l'homme et de l'humanité est contenu dans cette épître aux Romains. Et les hommes de Dieu, de l'Église, des pères qui ont fixé le canon des Écritures, a certainement été guidé par le Saint-Esprit pour placer l'Épître aux Romains en tête de tout ce qu'avait écrit l'apôtre Paul. Parce que cet Épître, comme nous le verrons, prête de l'évangile de Dieu, c'est-à-dire cette bonne nouvelle de Dieu qu'il annonce à l'humanité tout entière, évangile qui est lui-même la puissance de Dieu, comme nous le verrons au verset 16 et 17 de ce premier chapitre, où le thème vraiment de cet épître est résumé dans ces versets. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra deux fois. C'est donc cette bonne nouvelle que Dieu fait annoncer par son serviteur Paul à l'humanité tout entière. L'auteur de cet épître est donc Paul, dont vous connaissez les origines. Nous n'allons pas nous allonger sur ce sujet. C'est ce Saul de Tarse, citoyen romain, mais né du peuple hébreu, et qui avait étudié la loi au pied d'un des grands maîtres de son temps, Gamaliel, aux écoles de Jérusalem. Vous savez qu'il fut persécuteur d'abord des croyants. Il se nomme lui-même un blasphémateur, un outrageux, un persécuteur de cette secte qui se réclamait du Nazaréen, de Jésus, jusqu'au moment où il fut arrêté sur le chemin de Damas par le Seigneur lui-même, lui parlant du haut du ciel, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?» dit Saul de Tarse, qui a mordu la poussière. « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Et c'est ainsi qu'il plut à Dieu, comme il le dira aux Galates, de lui révéler son Fils. Et son Fils, dans la gloire, tel que l'avait vu Étienne, le martyr, à la mort duquel Saul consentait, puisqu'il avait accepté de garder les vêtements de ceux qui lapidaient, cet homme plein de foi et de puissance, et qui avait osé rendre témoignage à son Seigneur au risque d'y perdre la vie. Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, eut la confirmation que ce jeune homme dont le visage resplendissait comme celui d'un ange, et qui, sous les pierres de ses persécuteurs, disait « Père, ne leur impute pas ce péché, il reçoit mon esprit, après avoir proclamé « Je vois le ciel ouvert » et Jésus debout à la droite de Dieu », eh bien, Saul de Tarse savait désormais qu'Étienne n'avait pas menti, qu'il n'avait pas été la proie d'une hallucination, mais qu'il avait témoigné de la vérité. C'est donc lui l'auteur de cette épître aux Romains. Maintenant, les destinataires de cette épître, ce sont les croyants de Rome, ou si vous voulez, l'Église qui se trouve à Rome et qui était formée de croyants juifs convertis au Seigneur et de païens qui s'étaient détournés des idoles pour suivre eux aussi le Dieu vivant et vrai et qui s'étaient joints à ces juifs convertis et qui dans la capitale du monde d'alors se réunissaient régulièrement pour s'édifier les uns les autres sur leur très sainte foi et témoigner de leur amour pour Jésus-Christ. Dans cette ville de Rome, au temps où régnait quel empereur? Néron. Qui avait fondé cette église auquel Paul adressait cette lettre? Si vous lisez cette épître, et nous aurons l'occasion de le faire, sans préjuger, vous serez convaincu que ce n'est pas l'apôtre Pierre qui est le fondateur de l'église de Rome. Je ne dis pas que Pierre n'a pas été à Rome. Il y est très probablement mort. Selon la tradition, sous Néron, crucifié la tête en bas, par humilité pour son Seigneur. Il ne se trouvait semble-t-il, pas digne d'avoir la même position que son Seigneur. Mais ce n'est pas Pierre qui a fondé l'Église de Rome, et nous allons voir dans notre étude, dans cette semaine, pourquoi. Alors, est-ce que ce serait Paul? Non. Puisque avant d'aller à Rome, il écrit à des croyants qui se trouvent dans cette ville. Mais si vous lisez le dernier chapitre de cette épître, vous serez bien convaincu que si l'apôtre Pierre avait été à Rome, l'apôtre Paul l'aurait fait saluer. Or, il ne dit pas un mot pour l'apôtre Pierre. Donc, il semble bien que Pierre n'était pas à Rome au moment où Paul a écrit cette lettre aux Romains, qui a été portée par quel facteur? Non, quand les hommes sont en grève, Dieu emploie les femmes. Par ce B, la diaconesse de l'église de Sancré, c'est elle qui a apporté cette précieuse missive. Vous voyez qu'on peut confier quelque chose de précieux à une femme. Et on entend des rugissements. C'est pour ce soir, les animaux. Oui, c'est Phoebé qui a apporté cette lettre de Paul aux croyants de Rome. Alors, comment est-ce que cette église a commencé? Est-ce que vous avez une idée? Comment l'évangile a-t-il pu parvenir à Rome sans qu'il y ait eu d'abord un apôtre pour l'apporter? Exactement, François. Si vous lisez le chapitre 2 des Actes, eh bien, vous voyez que des gens de tous ces pays, de la, ce qu'on appelait la diaspora, les Juifs dispersés dans tous ces pays et qui montaient pour les fêtes à Jérusalem, se sont trouvés donc le jour de la Pentecôte parmi les auditeurs de qui? De l'apôtre Pierre. Alors, si vous avez été déçus lorsque j'ai dit que Pierre n'avait pas directement fondé l'église de Rome, vous pourrez être consolé en apprenant que c'est quand même par la prédication de l'apôtre Pierre, mais à Jérusalem, que les premiers croyants en Jésus se sont trouvés ensuite à Rome et ont établi là un témoignage fidèle à celui qui leur avait été révélé comme le Seigneur de toute la terre, celui à qui toute autorité avait été donnée dans le ciel et sur la terre, et qui avait mandaté les 12 apôtres pour apporter l'évangile à toute la création, enseignant toutes les choses que Jésus leur avait commandé à ceux qui croiraient en lui, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous savez que plusieurs furent donc baptisés à Jérusalem dans une seule journée. Combien y en eut-il? 3 000. Voilà donc l'origine de cette église de Rome. Quant à la date, je l'ai déjà mentionné, où cette épître fut écrite, c'est entre les années 56 et 57, quand Paul se trouvait à Corinthe, où il est resté plus d'une année. Et le but qu'avait l'apôtre en écrivant cette lettre à des croyants qu'il ne connaissait pas tous, il en connaissait quelques-uns, mais son but, c'était de répondre à cette grande question que le patriarche Job, un arabe, se posait déjà du temps d'Abraham ou entre Abraham et Moïse. Comment un homme pourra-t-il être juste devant Dieu? Est-ce que c'est en accomplissant toute espèce de bonnes œuvres? Est-ce que c'est en se soumettant à une loi qui nous aurait été révélée par Dieu? Ou serait-ce par la foi, en croyant simplement, non pas seulement que Dieu existe, mais en croyant ce que ce Dieu a dit, car si Dieu existe, il a dû parler. Et comme nous allons le voir, la conclusion de l'apôtre Paul, c'est que l'homme ne peut être justifié que par la foi. Foi qui sera suivie alors d'une manifestation qui prouve la réalité de la foi et qui sont des œuvres. Donc les œuvres ont leur place dans le christianisme, mais ne précèdent pas la foi, les œuvres qui ne sont pas mortes, ces œuvres qui sont des œuvres de vie, ce sont des œuvres qui sont la manifestation d'une foi vivante. Et tout croyant, et j'espère que dans ce temps, nous aurons cette manifestation, tout croyant authentique, tout homme qui croit ce que Dieu dit, doit exceller dans les bonnes œuvres. Il doit être le premier à accomplir des bonnes œuvres. Il ne doit pas se dire, puisque ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, puisque c'est par la foi, eh bien, je laisse les œuvres à d'autres. Non. Si vous êtes un croyant authentique, vous excellerez dans les bonnes œuvres. Et vous ne ferez pas n'importe quelle bonne œuvre, mais les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. De sorte que, comme nous allons le voir tout à l'heure, la foi, c'est une obéissance à la parole de Dieu et elle nous mène dans un chemin où nous accomplissons des œuvres qui ne nous sauvent pas, mais qui sont la manifestation de notre salut, œuvres qui deviennent une occasion de salut pour qui? Pour les incrédules. C'est par nos œuvres visibles que les incrédules pourront être amenés à une foi véritable. Et non pas simplement par nos paroles, par nos prédications, par nos exposés de sagesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul voulait que la foi de ceux qui étaient amenés à croire au Seigneur Jésus repose non pas sur une sagesse charnelle, sur des discours, sur des doctrines, sur des idées, mais il voulait que leur foi repose vraiment sur une démonstration de puissance, la puissance même de Dieu, qui par son esprit et par sa parole convainc un homme et le transforme à l'image même du Seigneur. Alors, quel sera notre plan pour étudier cet épître aux Romains durant le temps entier? Il aurait fallu déjà avoir la connaissance de toute cette épître pour que vous puissiez bien le comprendre, mais je l'ai lu pour vous, et ce que nous savons, c'est qu'elle se divise en deux grandes parties. La première est une partie doctrinale et va du chapitre 1er au chapitre 11e. Puis la seconde partie est une partie pratique. De la doctrine découle une vie. Si vraiment vous avez cette doctrine dans vos cœurs, vous aurez une vie qui correspond à cette doctrine. Il ne doit pas y avoir de différence entre votre doctrine et votre vie. Votre vie doit confirmer votre doctrine et non pas l'infirmer. Alors vous avez ces premiers chapitres jusqu'à la fin du chapitre 11, chapitre de doctrine et puis chapitre d'exhortation pratique à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16. Alors notre intention dans cette première semaine, c'est de voir aujourd'hui l'introduction qui va du verset 1 au verset 15. C'est juste pour que vous ayez une idée. Dimanche, Dieu voulant, au culte, nous nous arrêterons sur les versets 16 à 17 qui servent de thème à cet épître et à notre temps et qui est un résumé de tout l'évangile. Puis lundi, nous étudierons les chapitres 1, verset 18 à 3, verset 20, qui traite de l'état moral de l'homme devant Dieu. Donc vous aurez deux chapitres et demi demain à lire à haute et intelligible voix et à méditer et à partager entre vous avant que je vous fasse un exposé sur ce thème, l'état moral de l'homme devant Dieu, selon l'apôtre Paul. Mardi, nous aborderons les chapitres 3 à partir du verset 21 au chapitre 5, verset 21, qui traite de la rédemption et de la justification par la foi. Mercredi, Dieu voulant, nous commencerons alors le thème de la vie nouvelle ou la délivrance du péché. Ce sera le chapitre 6 des Romains. Par notre identification au Christ dans sa mort et sa résurrection, nous devons connaître la délivrance du pouvoir du péché. Jeudi, nous continuerons ce thème de la vie nouvelle en voyant le rôle de la loi dans la vie des Israélites et de tous les hommes et notre affranchissement de ce joug terrible que la loi faisait peser sur l'homme. Libération du péché, chapitre 6. Libération du joug de la loi, chapitre 7, et vendredi, continuant cette vie nouvelle, nous arriverons à la sanctification par le Saint-Esprit, sanctification qui suit la justification. Il n'y a pas de réelle justification qui ne soit suivi d'une sanctification. Et il n'y a pas de sanctification chrétienne qui ne soit précédée d'une justification. Ce sera donc le merveilleux chapitre 8 de l'Épître aux Romains que nous aborderons vendredi. Alors, samedi, qu'est-ce qui va se passer? Samedi, vont arriver des nouveaux qui n'auront rien entendu de cet épître, mais qui vont se joindre à vous avant le départ de plusieurs Alors nous ferons samedi une récapitulation des vérités que nous aurons vues ensemble et qui permettra au nouveau d'entrer dans le sujet de cet épître. Et puis, pour que ceux qui partent aient une petite idée de ce qui va suivre, nous ferons une prospection rapide des chapitres qui terminent cet épître et qui sont les chapitres de la vie pratique. Plus la fameuse parenthèse des chapitres 9 à 11 qui traitent de l'élection et en particulier du mystère d'Israël et de la prédestination. Dimanche, au culte d'adoration, nous aurons à méditer et à adorer devant les voies insondables et merveilleuses de Dieu, devant ses jugements introuvables. Et je pense que là, nous toucherons le sommet de l'adoration. Avant que vous partiez, et au début de la seconde semaine, pour ceux qui viendront se joindre à nous. Et dès lundi, alors nous aborderons le mystère d'Israël, la prédestination. Mardi, la sainteté pratique, ce sera le chapitre 12. Mercredi, notre obéissance et notre soumission aux autorités, ce sera le chapitre 13, la vie civile. Jeudi, la tolérance qui doit exister entre les chrétiens, ce sera le chapitre 14. Et vendredi, l'amour chrétien mis réellement en pratique, ce sera le chapitre 15. Et samedi, nous serons au chapitre 16 pour les salutations. Un chapitre formidable, un chapitre merveilleux que vous ne devez surtout pas escamoter en disant « tous ces noms, là, tous ces mots, on ne les connaît pas ». Ce sont d'illustres inconnus, comme vous, vous êtes d'illustres inconnus pour d'autres. Mais souvenons-nous que si c'était nos noms qui figuraient là, nous serions contents. Nous aurions un intérêt. Quand vous voyez votre nom dans un journal parce que vous avez eu un succès à un examen, vous lisez toute la liste pour y découvrir votre nom. Alors n'oubliez pas que vous n'êtes pas des êtres anonymes pour le Seigneur. Et que ce que vous avez fait de bien pour l'œuvre de Dieu est noté par le Seigneur. Et dimanche, alors, nous finirons par la doxologie, par la bénédiction qui termine l'épître au chapitre 16, versets 24 à 27. Voilà une idée du plan et de la marche à suivre. Maintenant, nous faisons la lecture, mais peut-être que vous voulez changer de position ou de bord, et nous ferons la lecture des 15 premiers versets de ce premier chapitre. Vous. Bon, alors, je vais lire dans la version seconde. Ici, j'ai la révisée. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre ou apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu, cet évangile Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. C'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Cet évangile concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance
selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez donc, dans ces quelques versets, l'adresse et la salutation. D'abord, la signature de Paul. Vous savez qui est Paul, ce soldat de Tarse dont vous trouvez la mention dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres, puis la conversion au chapitre 9 et toute sa vie au travers des chapitres 13 à 28 du livre des Actes qui nous font voir ce Paul à Rome où il est prisonnier. Donc, ce Paul nous donne ses titres. Il est serviteur. Littéralement, il faudrait traduire esclave. Esclave. Mais quel doux esclavage. Avant, il était esclave du péché, esclave de Satan, esclave de sa religion, et maintenant il est esclave de qui ? De Jésus. Du plus doux des maîtres, car Jésus disait qu'il était doux et humble de cœur, et que ce joug était léger, et que son fardeau était aisé, ou son joug aisé et son fardeau léger. Il est donc serviteur du Christ Jésus ou de Jésus-Christ. Les versions TOB ont préféré dire Jésus-Christ au lieu du Christ Jésus. Peu importe, c'est la même personne. Jésus, c'est son nom d'homme et le Christ, c'est son nom loin du Seigneur. C'est son humanité et sa divinité. Je dis ceci juste entre parenthèses, que dans le monde catholique, on emploie presque toujours le pronom « le » pour parler du Christ. Vous dites le plus souvent « le Christ ». Dans nos milieux protestants des vieux pays, on dit simplement très souvent « Christ ». Mais ici au Québec, c'est dangereux. Parce qu'il y en a qui croient que nous sacrons quand nous disons simplement Christ. Mais c'est dans le protestantisme que nous avons eu cette habitude de ne pas mettre un pronom devant Christ. Et pour nous, Christ, eh bien, c'est le Seigneur. C'est pas sacré. Alors, dans la version TOB, pour rendre plus facile la lecture, on a presque toujours traduit Jésus-Christ plutôt que le Christ Jésus ou le Christ. Serviteur du Christ Jésus ou de Jésus-Christ. Et vous connaissez maintenant qui est Jésus-Christ, nous passons. Appelé à être apôtre. Est-ce qu'il s'est déclaré lui-même apôtre? Est-ce qu'il s'est fait apôtre? Non. Il a été appelé. Et pour être un apôtre, au sens de l'Église primitive, il fallait avoir vu le Seigneur. Même littéralement, quand il a fallu remplacer Judas, on a défini que il fallait pour que quelqu'un puisse être nommé apôtre, qu'il ait assisté au baptême de Jésus au temps de Jean-Baptiste et qu'il ait vu le Seigneur remonter au ciel. Qu'il ait été donc témoin de son baptême et de toute la vie du Seigneur jusqu'à son élévation dans la gloire. Et combien s'est-il trouvé de personnes? Deux seulement. Et c'est l'un des deux qui a été nommé pour remplacer Judas. En l'occurrence, Matthias. Alors, pourquoi est-ce que Paul peut prendre le nom d'apôtre, lui? Parce que lui a eu une révélation absolument spéciale, particulière du Seigneur. Il l'a vu, mais dans la gloire. Alors nous avons donc dans le Nouveau Testament deux sources de témoignages. Le témoignage des hommes qui ont connu le Seigneur dans sa vie terrestre et qui sont les 12 apôtres, témoins oculaires du Seigneur. Et nous avons le témoignage d'un homme qui n'avait pas connu le Seigneur selon la chair, mais qui l'a vu, comme il dit, avant le temps, qu'il l'a vu dans sa gloire. Et tout le message que Paul nous a donné et que vous trouvez dans ses épîtres, ce ne sont pas des messages qu'il a appris des apôtres, compagnons du Christ, c'est un message qu'il a reçu directement du Seigneur. Glorieux. Mais le message qu'a reçu Paul, quand vous le comparez au message qu'ont donné les apôtres qui ont connu le Seigneur, que ce soit Pierre ou que ce soit Jean, sont des messages qui se contredisent? Non. Il y a une correspondance complète, totale, une unité merveilleuse de pensée. Mais donc, nous avons là deux sources d'inspiration qui concordent et qui donnent toute autorité à ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Donc, ne disons pas, ça c'est, ce sont les paroles de Paul, c'est le message paulinien, certes, il a un caractère spécial, ce message-là, mais il n'est pas en contradiction avec les messages que nous trouvons dans les évangiles. De sorte que les épîtres de Paul ont une valeur aussi grande que quoi? Que les évangiles. Et ne faites jamais de nuance ou de différence en disant ça c'est de Paul, ça c'est Paul qui l'a dit. On aime beaucoup dire ça aujourd'hui. Et surtout nos sœurs, il faut peut-être réfléchir à tout cela avant de se prononcer contre l'apôtre Paul, qui n'était pas un misogyne comme on l'a prétendu. Et nous aurons l'occasion de le voir dans cet épître aux Romains. Alors, ce Paul est donc apôtre, parce qu'il a vu le Seigneur dans la gloire. Et apôtre, qu'est-ce que ça veut dire? Envoyé. Il est donc envoyé, il ne s'est pas envoyé lui-même. Et il a été mis à part pour l'évangile de Dieu. Sa mise à part a eu lieu en particulier, visiblement et officiellement, dans la ville d'Antioche. Vous avez cela au chapitre 13 des Actes des Apôtres. Pendant que la communauté d'Antioche priait et jeûnait, l'Esprit dit « Mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour le ministère que je leur ai confié. » Et nous apprenons que l'apôtre Paul a reçu comme ministère d'être le porte-parole du Seigneur parmi les nations païennes, comme Pierre a été le porte-parole du Seigneur, spécialement parmi les Juifs. Alors vous avez en Pierre l'apôtre des Juifs, et puis en Paul l'apôtre des païens. Mais juifs et païens sont également chers devant Dieu. Alors, étant donné qu'il était mis à part pour l'évangile de Dieu, donc pour apporter cette bonne nouvelle, cet évangile que Dieu avait promis auparavant par les prophètes, donc c'est les prophètes de l'Ancien Testament. De sorte que quand vous lisez l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous devez pouvoir trouver ? L'évangile. L'évangile, il est dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous n'en avez pas eu une petite vision hier soir dans le texte que j'ai cité au sujet de Marat et du bois qui a été jeté dans l'eau amère et qui est une image de quoi ? De la croix. Saint Augustin disait que le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien et que l'Ancien était révélé dans le Nouveau. Et c'est tout à fait juste. Alors, il avait été promis cet évangile par les prophètes dans les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures, c'est quoi ? C'est tout l'Ancien Testament, parce que le Nouveau n'existait pas encore. De sorte que quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas intéressé par le Nouveau Testament, je ne crois pas qu'il soit réellement intéressé par l'Évangile. C'est vrai ou c'est faux ? Si vous avez été touché par l'Évangile, vous serez des lecteurs assidus du Nouveau Testament et vous chercherez à y découvrir les trésors de l'Ancien Testament. Vous trouverez les trésors de l'Ancien Testament. Alors, cet Évangile concerne qui ? Son Fils. Donc, tout l'Ancien Testament a pour objet qui ? Le Fils. C'est pourquoi j'aime beaucoup la version TOB dans l'Ancien Testament, parce que ils ont toujours traduit l'Éternel par le mot Seigneur. Pour que vous soyez bien assurés que le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est pas le Dieu des Juifs, et puis qu'il y aurait Jésus qui serait le Dieu des chrétiens dans le Nouveau, le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est déjà le Fils avant son incarnation en Jésus. C'est déjà le Fils que vous trouvez dans toutes les pages de l'Ancien Testament. Et je n'invente rien, c'est Jésus lui-même qui, le jour de sa résurrection, a pu dire sur le chemin d'Emmaüs à ses deux disciples tout ce qui le concernait dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc, la lecture de l'Ancien Testament devient pour vous passionnante et d'une richesse merveilleuse. Et alors, ce Fils, selon l'Ancien Testament, il devait naître de qui ? De David, selon la chair, c'est-à-dire par sa naissance physique, puisque le Seigneur s'incarnait. Nous aurons l'occasion de vous parler de ce qu'est la chair, des différentes acceptions de ce mot « chair ». Nous aurons l'occasion d'en parler dans les cours à venir. Je n'insiste pas maintenant là-dessus. Mais ça veut simplement dire que Jésus, comme homme, est né de qui ? D'une femme, hein, qui est Marie, qui était avec Joseph, descendant tous les deux de David. Alors, selon la chair, il est de la descendance de David, comme l'avait annoncer les prophètes, mais il est dit, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection. Est-ce que c'est seulement à sa résurrection qu'il est fils de Dieu, ou qu'il était déterminé fils de Dieu? Ou bien est-ce qu'il l'était avant? Il l'était avant. Mais, comme il s'était incarné, et que le monde, avec les yeux des hommes, le voyait ici-bas en figure comme un homme, il y avait des doutes. On pouvait douter en regardant Jésus, en le voyant pleurer, en le voyant avoir faim, en le voyant fatigué du chemin, on pouvait réellement se demander s'il était ce qu'il prétendait, le Fils de Dieu. Et alors, tout doute a été enlevé quand ? Par sa résurrection d'entre les morts. C'est ce que ça veut dire ici. Déterminé fils de Dieu par la résurrection. Là, il n'y a plus de doute. Si le Christ n'avait été qu'un homme, il serait peut-être mort martyr, mais il n'aurait pas été ressuscité. De sorte que vous avez, dans la résurrection du Christ, la preuve éclatante de sa divinité. Mais ne dites pas que c'est à la résurrection que le Christ est devenu fils de Dieu. Il l'a toujours été. Comprenez bien cela. Jésus était de toute éternité le fils de Dieu. Mais il est apparu en chair. Né de la Vierge Marie, mais conçu de qui ? Du Saint-Esprit. Alors, il est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté. L'Esprit de sainteté, c'est l'Esprit Saint, donc, par sa résurrection d'entre les morts. Et en ressuscitant ainsi d'entre les morts, il devient le modèle de ceux qui, à leur tour aussi, seront un jour ressuscités d'entre les morts. C'est par lui que nous avons reçu, non pas comme certains l'ont traduit, la grâce de l'apostolat. Non, il y a deux choses. C'est par lui que nous avons reçu la grâce. Ça veut dire le salut. Paul a été sauvé. Saul de Tarse nous dit que Dieu lui a fait grâce. Il lui a fait grâce d'abord, quant à tous ses péchés. Il l'a sauvé par la grâce. Mais ensuite, étant sauvé par la grâce, qu'est-ce qu'il a reçu ? L'apostolat. Donc on est sauvé par un appel du Seigneur, c'est la grâce. Et puis, si on a un ministère, cet apostolat, eh bien, nous le recevons du Seigneur. Nous ne le prenons pas nous-mêmes. Nous sommes appelés à cela. Et cet apostolat, il nous dit qu'il consistait à amener en son nom, donc au nom de Jésus, à l'obéissance de la foi à toutes les nations. Donc vous voyez ici que la foi est une obéissance. Il faut amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Et cette obéissance, si elle est réelle, qu'est-ce qu'elle produira ? Des œuvres. Alors, fini le conflit entre les œuvres et la foi. Il y a une harmonie parfaite dans la question du salut. C'est la foi qui sauve, mais la foi qui sauve est celle qui produit des œuvres. Et vous avez donc un lien admirable entre la doctrine que nous décrit l'apôtre Jacques, qui insiste surtout sur les œuvres, et la doctrine que définit l'apôtre Paul, qui insiste surtout sur l'aspect de la foi. Et ces Romains, il dit que ils sont parmi les nations, vous êtes aussi, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc un homme qui est sauvé, c'est un homme qui a d'abord été appelé. Il y a beaucoup d'appelés, hein, mais peu d'élus. Donc il ne suffit pas encore d'être appelé, mais tous sont appelés. Il faut être élu. Mais étant appelé par Jésus-Christ, il s'adresse donc à eux, l'apôtre Paul, ainsi qu'à tous ceux à Rome qui sont, comment les appelle-t-il ? Des bien-aimés de Dieu. Qu'est-ce que vous avez dans vos traductions ? Bien-aimés de Dieu. Est-ce que vous l'êtes ? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes des bien-aimés de Dieu ? Quand Dieu a désigné son fils, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est mon fils ? Bien-aimé. Et vous, maintenant, qu'est-ce que vous êtes ? Des bien-aimés de Dieu, si vous avez reçu Jésus-Christ, vous êtes sur le même terrain que lui, rendu agréable dans le bien-aimé de Dieu. Et vous êtes des bien-aimés de Dieu. Et alors, votre appel, il consiste à quoi, maintenant ? Appelé à quoi ? Maintenant qu'il vous a fait grâce, qu'il vous a justifié, appelé à être saint. Appelé à la sanctification, c'est-à-dire à être mis à part. Comme Paul qui a été mis à part, nous aussi nous sommes mis à part pour une tâche dans ce monde. Et ensuite, ce que l'apôtre Paul souhaite, c'est la grâce et la paix à ces Romains. C'est le souhait que vous retrouvez dans toutes ces lettres. Et c'est ce dont nous avons toujours besoin. Nous sommes sauvés par la grâce, mais ensuite nous avons besoin d'être fortifiés dans la grâce pour continuer la route. Et puis, nous avons besoin de la grâce pour être enseignés comment nous devons vivre dans le siècle présent, dans la sobriété, dans la justice et dans la piété. Dans la piété, dans nos relations avec Dieu, dans la justice, dans nos relations avec le prochain, et dans la sobriété, quant à nous-mêmes, pour notre bien personnel. C'est la grâce qui nous enseigne ça, et nous avons besoin de la paix. Cette paix avec Dieu, cette paix avec nos frères, pour que nous soyons dans ce monde de troubles, des éléments de paix. Cette paix dans toutes nos circonstances, une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc je ne crois pas qu'il y ait dans le texte une difficulté quelconque. Eh bien, que cette grâce, que cette paix vous soit donnée de la part de qui ? De Dieu. De Dieu, source de toute bénédiction, et puis de qui ? De Jésus-Christ, qui est notre seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous ne pouvez pas passer à Dieu sans Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ est le chemin qui conduit au Père. Alors, je lis maintenant la fin. L'amour de Paul pour les chrétiens de Rome. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. C'est beau un homme comme ça, qui se réjouit d'abord du bien qu'il peut y avoir chez les autres. C'est ça, ce que je vous disais hier soir. Ayez de bonnes pensées à l'égard des autres. Ce que vous aimeriez qu'on pense de vous, pensez-le des autres. Et rendez grâce de ce qu'il y a de bonnes pensées chez les autres. De ce qu'il y a de bonnes choses aussi dans la vie de nos frères. Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Donc, est-ce qu'on peut avoir une foi cachée ? La vraie foi, elle est connue. Dieu que je sers dans mon esprit en annonçant l'évangile de son Fils, voyez qu'il parle de l'évangile de Dieu, puis maintenant de l'évangile de son Fils. Au verset 1, il parle de l'évangile de Dieu. Pour quelle raison ? Parce que Dieu en est la source. Puis ensuite, quand il parle de l'évangile de son fils est l'objet de cet évangile. Cet évangile, c'est donc le même. Mais il m'est témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, oui, je prierai pour vous. Mais il dit, je peux prendre Dieu à témoin que vous êtes dans mes prières. Est-ce que nous sommes dans les prières les uns des autres? Et je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, il se soumet déjà à la volonté de Dieu, une occasion favorable d'aller chez vous. Ça nous montre qu'on peut avoir des désirs, même de voyager, d'aller à un certain lieu. Un grand apôtre avait ce désir-là, mais dans quel but ? Un but purement touristique ? Non. C'était, on verra, dans quel but. Hein ? Mais même un grand apôtre peut avoir certains désirs qui sont remarquables et ne pas être exaucés, alors que ça vous console aussi pour les voyages qu'on n'avait pas encore fait. Car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Ah, ça vaut la peine alors. Que le Seigneur nous enrichisse tellement qu'on ait le désir de voyager pour apporter quelques dons spirituels. Et cela, il le dit en toute humilité. Mais dans le chapitre 15, vous verrez, il dit, je sais que quand je viendrai à vous dans la plénitude de la bénédiction du Christ. Mais comment est-il arrivé à Rome ? Dans les chaînes. Mais quoique dans les chaînes, il était dans la plénitude de la bénédiction du Christ et il n'avait pas payé son voyage. Il n'avait pas dû envoyer des lettres pour dire qu'il devait voyager pour annoncer l'évangile et qu'il comptait sur les dons de ses chers frères et sœurs. C'est l'État qui a payé. C'est c'est quand même beau. Quand on se laisse faire, ah mais évidemment on est prisonnier, mais quand même, quel prisonnier qui sauve du naufrage tous ceux qui auraient dû périr. C'est merveilleux la Bible. Dieu, je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez démolis. Hein, les prédicateurs qui viennent démolir une église, une assemblée, qui font des troubles, des divisions, vous les connaissez aussi. Afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que chez vous, nous soyons, ça c'est tellement beau, hein, encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je pense que dans ce camp, si nous avons une foi commune, hein, nous partageons. Et nous serons drôlement encouragés, les uns et les autres, peu importe votre dénomination, le groupe avec lequel vous vous réunissez, apportez votre foi. Et que nous apportions les uns et les autres notre foi aux autres. Et c'est une foi qui nous est commune. Est-ce que nous avons deux Jésus-Christ? Trois Jésus-Christ? Non. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Alors, je ne veux pas que vous ignoriez, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin d'avoir quelques fruits parmi vous. Parce que, évidemment, si l'apôtre fait grandir ces personnes, il y aura du fruit à la gloire de Dieu. Mais vous voyez que le fruit, ce n'est pas des conversions, là. On vous dit toujours que, est-ce que vous portez du fruit? Combien de gens est-ce que vous avez convertis? C'est ça? Ben, laissons-nous corriger par la parole. Hein. C'est ce que nous voulons dans cette semaine. Nous voulons reprendre ça à la source. Qu'est-ce que c'est qu'il veut? Afin d'avoir quelques fruits parmi vous. Donc, faire grandir des âmes dans la foi, c'est du fruit. Édifier les âmes. Si votre vie édifie une âme, si votre manière de parler, votre douceur, votre bonté, votre patience, fait du bien à quelqu'un, c'est du fruit. Donc, le vrai fruit que nous devons manifester, c'est le fruit de l'esprit, d'abord. Ce n'est pas le nombre de gens que vous avez convertis. D'abord, ils sont très mal convertis. Ce sont vos convertis. Hein? Vos convertis. Mes convertis. Hein? Il y a tellement de ces prédicateurs maintenant qui se prennent pour des coqs et qui voudraient toutes sortes de poules. Vous serez mes poules. Vous serez mes paroissiens. Vous m'acceptez comme votre coq. C'est misérable. Pas ça. Nous voulons servir le Seigneur. Et avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, il en avait eu. Mais j'ai été empêché jusqu'ici. Donc il y a des empêchements même pour les grands apôtres. Alors ça nous encourage aussi si nous avons eu quelques empêchements. Mais attendons. Et l'apôtre a su attendre. Mais il veut qu'il sente qu'il a une dette. Et je voudrais que vous souligniez ce passage. Je me dois aux Grecs et aux barbares. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, les Grecs, c'était la civilisation des Romains. Les Romains avaient été, au fond, civilisés par les Grecs. Alors, tous ceux qui étaient civilisés, on les appelait les Grecs parce qu'ils avaient bénéficié de la civilisation des Grecs. Et puis, les autres, les barbares, eh bien, c'était tous ceux qui n'étaient pas de cette civilisation-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient barbares dans le sens que l'on entend quelquefois aujourd'hui, mais ils n'avaient pas les mêmes coutumes, les mêmes usages. Ils se devaient aux savants et aux ignorants. Vous voyez que l'Évangile est pour tous, et notre amour ne doit pas faire d'acception de personne. Il y en a qui ont eu l'occasion de faire des études et d'autres qui n'ont pas pu. Mais Paul disait qu'il se devait aussi bien aux ignorants qu'aux savants. C'est tellement beau. Que vous sentiez une dette, qui que vous soyez, envers les uns et envers les autres, et que nous ne méprisions personne. De là mon vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous aussi qui êtes à Rome. Voilà les motivations de l'apôtre Paul, comme nous avons cherché de voir quelles avaient été vos motivations ici en venant au camp. Eh bien, que le Seigneur nous bénisse et nous garde, et que maintenant, dans les activités que vous allez choisir, qu'il vous protège, et que vous puissiez relire ces textes, vous imprégner de ces passages, et si vous avez quelques questions difficiles, eh bien, partageons ensemble. Ô Dieu notre Père, avant de nous livrer à d'autres occupations, peut-être physiques, pour détendre aussi nos corps, nous voulons te demander de continuer à parler à nos cœurs, à chacun de nous, et de nous préparer pour que nous puissions entrer dans cet épître et y trouver vraiment cette nourriture, cette sève, qui feront de nous des chrétiens vraiment authentiques, des gens qui sont vraiment nourris de la parole de Dieu et qui n'ont pas besoin de toujours compter sur des hommes pour les nourrir, mais qui peuvent en nourrir d'autres, qui peuvent apporter à d'autres ce qu'ils auront eux-mêmes reçu. Que ta grâce soit avec nous et que tu nous donnes ta paix. En Jésus. Amen.